Donc ça, c'est le programme de la journée. Est-ce que vous aviez, est-ce que vous avez toujours été dans l'école démocratique ou est-ce que vous avez eu une scolarité dans des écoles plus classiques?
Moi non.
Moi non plus, mais il y a quelques étudiants qui ont eu une scolarité dans une école classique.
D'accord. Quels sont pour vous les avantages de fonctionner comme ça? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette école? Tiens, on va commencer par Kavya, parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans cette école, Kavya?
J'aime bien lire. J'aime bien aussi écrire. Et tout.
Les mathématiques, un peu moins?
Non, pas trop.
Pas trop, ça c'est moins chouette les maths.
Ouais.
Est-ce que par exemple pour les mathématiques tu as de l'aide des fois de camarades? J'ai vu qu'il y avait certains groupes qui s'accompagnaient en binôme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide des fois sur la partie maths?
Oui.
C'est qui par exemple qui t'aide?
Des fois Zoé, des fois Elena, et puis tout je pense.
Ça, c'est une particularité aussi, c'est quelque chose d'assez important. Vous aidez des fois les plus jeunes, c'est ça, Elena? Tu peux nous parler un petit peu de comment tu accompagnes Kavya?
En fait, je lui donne pas tout de suite les réponses, je lui dis pas, ça commence par la lettre tatati tatata. Je lui dis, par exemple, j'essaie de trouver des techniques pour trouver le résultat à suivre. Donc, par exemple, si c'est 5 plus 6... On fait 5 plus 5 et ensuite on rajoute 1, par exemple.
D'accord. Elle explique bien, Elena?
Oui.
Ouais. Zoé aussi, elle explique bien?
Oui.
Ouais. Ça, c'est cool aussi, j'imagine, de pouvoir être accompagné par d'autres étudiants. Ça aide à comprendre quand c'est avec d'autres étudiants que tu apprends?
Oui.
C'est plus facile, du coup?
Oui.
Donc ça c'est sur le rythme. Vous, entre plus grands, parce qu'on l'a entendu, vous avez 9 et 10 ans, Thiago et Elena, vous aussi vous vous accompagnez entre vous, vous aidez sur les apprentissages, sur les recherches, sur les réalisations?
Oui, sur les réalisations, oui.
Quoi par exemple?
On avait fait un spectacle de marionnettes au Castellet dans la salle bleue, tous les deux. Du coup on a fait quelque chose ensemble, quoi.
Ça arrive souvent, ça, de faire des trucs à plusieurs?
Ah oui, très souvent.
Très souvent?
Ouais.
Ouais. Oui. Toi aussi, Kavya, toi aussi, régulièrement, tu fais des choses avec d'autres étudiants?
Oui.
Ouais. Et qu'est-ce que t'aimes bien faire avec d'autres étudiants, toi?
Les spectacles de marionnettes.
T'en fais souvent?
Oui.
Ouais.
Après, il y a...
Si vous cherchez un moyen amusant de...
Je sais plus.
Après, tu sais plus?
Oui.
Bon. La meilleure activité, le meilleur moment pour vous dans l'école, quel est-il?
Moi, c'est quand je vais prendre mon cahier et dessiner sur une table.
Ouais, ça c'est un truc que t'aimes bien.
C'est vrai que moi j'aime beaucoup colorier aussi, je trouve ça très satisfaisant. En plus j'ai des feuilles qui sont vraiment très simples, enfin très, très agréables à utiliser. Donc,
Et pratique.
Et pratique, ouais.
Et toi, Kavya, qu'est-ce que tu préfères? Alors, tu parlais des marionnettes, mais en dehors des marionnettes, qu'est-ce que tu préfères faire ici?
Comme je disais, écrire, dessiner,
ouais.
Colorier.
Ouais, voilà, t'aimes bien un petit peu tout ça. Ouais. Tout à l'heure, on évoquait sur le premier plateau, on a échangé et on parlait des décisions que vous prenez, des échanges que vous avez, des choses que vous pouvez faire émerger dans la discussion. Quelle importance ça a pour vous de pouvoir participer à ces réunions?
Moi, je me sens inclus parce que dans certaines écoles, les décisions se prennent que avec les adultes et même des fois même pas avec les parents. Du coup, il y a souvent des gens qui ne sont pas ok avec ces décisions. Et dans cette école, du coup, on peut prendre des décisions tous ensemble et accepter ou ne pas accepter, justement.
Kavya, toi, tout à l'heure, tu voulais dire quelque chose sur ces réunions et sur ces décisions. Quelle importance ça a pour toi?
Des fois, je suis inclus dans les points et je pense que c'est tout.
Et c'est bien d'être inclus dans les points, justement, pour voir...
Où est-ce qu'on va décider ou des choses comme ça.
Ouais, ça tu aimes bien.
Oui.
D'accord. Thiago, toi, quelle importance ça a pour toi de participer à ces temps de décision, à ces temps de réunion?
C'est qu'il n'y a pas une seule personne qui décide tout, en fait, dans l'école. Et moi, je trouve ça vraiment très pratique. Parce que du coup, tout le monde se met d'accord sur un seul point. Et c'est pas genre, il y a quelqu'un qui se met d'accord sur un point, puis une autre sur un point, voilà. Du coup, moi, je trouve ça plus pratique qu'on est tous, on regarde si on est tous si on est tous d'accord sur ce point-là, et puis voilà.
Il y a des décisions sur lesquelles les étudiants n'étaient pas d'accord, et ils ont dit non, ça on n'est pas d'accord, c'est pas possible, et puis ça s'est pas fait. Elena ?
Oui, il y en a eu plusieurs.
T'as un exemple en tête là, pour qu'on se rende compte un petit peu ?
En fait, il y en a eu plusieurs, mais ils sont pas tous. Je les ai pas tous retenus parce que du coup.
Oui, c'est des décisions que vous n'avez pas prises, quoi.
Ouais, voilà.
Normal, je comprends bien. Tu voulais dire quelque chose, non, Kavya? Non, rien de spécifique. Hein. Une des particularités, je vous ai demandé tout à l'heure comment vous commenciez la journée. Je vous demandais comment vous la finissez tous les jours, cette journée.
Thiago. On a fini par le ménage. On fait le ménage dans toute l'école. Mais souvent, il y a des trucs en mode... Il y a des trucs où c'est le jeudi qu'il faut faire, genre que le jeudi. Il y a des trucs, c'est tous les jours. Il y en a, c'est le vendredi, vu que c'est le dernier jour. Voilà.
Donc voilà, c'est le ménage, ça termine toujours par le ménage de l'école, tous les jours ou en fonction de certaines tâches, une fois par semaine ou à un moment précis. Très bien, merci beaucoup à vous d'avoir témoigné, d'échanger sur ces questions-là. Moi, je vous propose qu'on aille faire un petit tour, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de comment ça marche, mais on n'a pas encore visité l'école. Vous allez me dire à la radio comment on visite l'école. Eh bien, deux étudiants se sont collés à la tâche. Léon et Elena nous ont proposé une visite de l'école.
Bonjour, comment vous vous appelez ?
Je m'appelle Elena, moi je m'appelle Léon.
Alors on est où ici ?
On est à l'école démocratique hébroïcienne.
Alors je vais vous suivre, par où on rentre ? Quel est cet espace ?
On rentre dans la cour de récréation, on peut dire, et ensuite on arrivera dans la salle rouge.
Donc moi je vois qu'il y a un paquet de bois, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que c'est ça ?
Le bois, il sert pour le moment, il y a une activité cabane. Après, il y a aussi des ballons, des vélos, tout ça.
Je vois qu'il y a une sculpture au fond. Qu'est-ce que c'est que cette sculpture ?
Cette sculpture, on l'a travaillée il y a 2 ans à peu près. On avait commencé à la faire. Et là, elle est presque terminée. En fait, c'était pour faire un petit peu une chose pour représenter l'école, en fait.
Est-ce que vous passez beaucoup de temps dans cette cour ?
Quand il fait beau, oui. Moi, je vais dehors comme ça pour souffler un coup, jouer un peu au ballon.
Ok, je vous suis. Alors, on va rentrer ?
Oui.
Alors là, c'est la salle que vous appelez la salle rouge, c'est ça ?
Oui.
Alors, racontez-moi un petit peu, qu'est-ce qui se passe dans cette salle rouge ? Qu'est-ce qu'il y a autour de nous ?
Il y a le coin lecture qui est ici. Donc, on a un peu de tout en livre, avec aussi un espace où on va à la médiathèque pour prendre plus de ressources pour lire, hein. Et on a aussi notre grand planning avec notre liste de projets. Donc là, les projets, c'est quelque chose qu'on fait quand même beaucoup à l'école. C'est quelque chose qui fait un peu vivre l'école, j'ai envie de dire.
Parlez-moi un petit peu. On est aujourd'hui, là, on est en train d'enregistrer. Nous sommes le mardi 10 mars. Racontez-moi un petit peu ce qui se passe sur ce mardi 10 mars.
Du coup, tous les matins, pas que le mardi, il y a une réunion à 9h45 et du coup, on parle des projets. S'il y a des gens qui ont un problème, il y a une feuille où on marque des points et du coup, on discute. Et après, là, il y a les projets à côté et on discute aussi tous les lundis et jeudis. Et mardi et vendredi, c'est les points. Et s'il reste du temps, on peut parler des projets. Et après, il y a le temps activité créative où on crée. Mais en fait, maintenant, c'est tout la journée pour le groupe 2 et 1. C'est l'activité mixte. Et du coup, en fait, ils peuvent faire toutes les activités.
On poursuit. Parlez-moi un petit peu de cette pièce. Alors, on a regardé la bibliothèque. Il y a des fauteuils et des canapés aussi. Vous y passez du temps là-dedans ?
Oui, c'est surtout quand, par exemple, on veut lire un livre aussi à la réunion, on peut s'asseoir là, à la présentation et au débat. Et sinon, là, il y a l'étagère aussi où on met les livres qu'on emprunte à la médiathèque.
Alors la table centrale, je vois qu'il y a une table centrale, oui. Elle sert à quoi cette table?
Souvent on fait des groupes de travail le midi en même temps de manger pour parler des projets et tout, ou alors on mange juste comme ça en collectif.
Alors on change de pièce, et là il y a plein là, de... Il y a de la peinture, il y a une scie, il y a du bois, il y a tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette pièce?
C'est la salle blanche ici, et c'est un peu la salle bricolage. Donc on a l'atelier bricolage juste là. Donc il y a un peu de tout, des marteaux, des tournevis, des clés anglaises, tout ça. Enfin, il y a de tout en fait, des vis. Et donc là, il faut, pour certains objets, des certifications qui sont faites pour ne pas se faire mal, mais sinon tout le monde peut s'en servir de cet atelier.
Donc derrière, il y a des œuvres aussi qui sont posées. Ça, des réalisations?
Oui, ici c'est l'atelier argile, donc c'est toutes les œuvres qui attendent d'être cuites ou qui sont déjà cuites. Voilà, en fait c'est en attente, tout simplement.
Et puis là, il y a un petit fauteuil proche du fond. Ouais.
C'est le coin émotion, en fait, quand on est en émotion, quand on est en colère, triste, tout ça, on peut aller là, on peut fermer les rideaux, et il y a un fauteuil, il y a des chaussettes, et on peut exprimer notre émotion là. Là, on est dans la cuisine, là, et du coup, le midi, on peut préparer nos repas. Après, quelquefois, il y a des ateliers cuisine, des gâteaux, tout ça.
Alors là, je reconnais. Ce sont les toilettes, non?
Oui, oui. Dans les toilettes, on a notre panier de linge, parce que tous les soirs, on fait le ménage. Et du coup, on se sert des lingettes, tout ça. Donc, il faut bien le mettre au sale. Et tous les vendredis, on a une liste de familles. Et il y en a une qui prend le linge, qui va le nettoyer. Et le lundi, elle la ramène. Comme ça, on a le linge qui est propre. C'est la salle la plus sombre.
Il n'y a pas de fenêtre, en fait. C'est la seule salle qui n'a pas de fenêtre.
C'est ça.
Alors, il y a un piano et des jeux de société.
C'est ça, c'est la salle
de stockage. Et après, il y a un atelier enregistrement. Et voilà, il y a des jeux, tout ça.
On est dans la salle verte.
Oui.
C'est ça. Il faut que j'ai deviné. Parce que les murs sont verts.
Oui, pas tous.
Pas tous, mais il y en a beaucoup de verts quand même là, dans ces pièces.
Du coup, dans toutes les salles, les étudiants ont un bureau qui se partage souvent à deux. Sauf il y a quelques étudiants qui ont un bureau tout seul parce que on n'est pas tout au complet. Et donc il y a un casier de bureau, ils peuvent ranger leurs affaires et ils font leur rituel où ils écrivent, tout ça. Ils font leur activité dessus.
Oui.
Et là, il y a les fiches de suivi du groupe 3. Et du coup, et après on peut cocher, ils ont des incontournables à faire, donc numération, écrit, lecture, entraînement. Et donc si par exemple il a fait son écrit, hop, il coche, et après ça veut dire qu'il l'a fait.
D'accord.
En fait ils peuvent le faire tout au long de la journée, c'est un peu en désordre, ils le choisissent quand est-ce qu'ils le font.
Ne dites pas que c'est la salle bleue.
Si, c'est la salle bleue. Donc là, c'est un peu la salle informatique, on peut dire. Et il y a un atelier marionnette, mais il n'y a qu'un bureau où il est tout seul, l'étudiant d'ailleurs. Et du coup, il y a l'imprimante, les ordinateurs, tout ça.
C'est quoi ça, les petits casiers là?
Ici, c'est des fiches donc de lecture et d'orthographe. Donc en fait, il y a des niveaux comme ça pour certaines personnes qui sont en train d'apprendre justement l'orthographe. Ils peuvent aller se servir dans un des deux. Et du coup, ils s'entraînent là-dessus tous les jours.
Je continue de vous suivre.
Ici, c'est la régie 2. Et du coup, il y a un lavabo, là il y a les activités de construction, donc Lego, Kapla, tout ça. Et il y a plein de boîtes et de cartons pour construire.
Justement, on y arrive dans la salle jaune.
Oui. Dans cette salle, on a un atelier avec des animaux, justement. Donc c'est l'atelier escargot, que justement Léon et moi, on fait vivre, et c'est un peu en bazar, mais c'est pas le sujet. Et il y a sinon sur les grandes étagères aussi qu'on a mis, il y a toutes les activités qui sont du style mathématiques, en tout cas dans cette partie. Donc mathématiques, géométrie, forme, enfin bref, tout ça. Et par là, il y a de l'écriture, de l'orthographe. Et quelques activités aussi sur les évolutions des animaux.
D'accord.
Si, c'est la salle mauve.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette salle mauve ?
En fait, il n'y a pas trop d'activités. Il y a plus que des bureaux. Il y a des cartes sur les papillons, les oiseaux, un poster sur l'escargot et la carte de l'Europe.
C'est la salle stockage d'étudiants. Donc, il y a tous les bureaux d'un peu tout le monde, presque.
Je vous suis ?
Et le mégalo ? C'est l'heure du rituel.
J'arrive. Bon, moi je vais vous laisser, je vais aller faire le rituel de numération de Naëlie.
De toute façon, là, on a fait toutes les salles, donc voilà.
Merci beaucoup pour la visite.
Ouais, de rien. Au revoir.
Bah oui, c'est ça. The Olympians, ça donne envie de soi-même être musicien pour faire partie de ce groupe d'exception. Je crois que c'est un peu rappé pour moi. Tant pis, je continuerai à fredonner à la bouche ou jouer du kazoo. C'est Fraise Kiwi de The Olympians. On est toujours en direct, en live et en public à l'école démocratique hébraïcienne.
Comme une antenne capte une multitude de fréquences, pour écouter la radio, il faut bien sélectionner une fréquence. Ça, c'est le rôle du tuneur.
Nous nous excusons de la mauvaise qualité du son, dont la cause est indépendante de nos installations.
C'est pas mal, Jamy, mais j'entends pas terrible, hein. Ça grésille.
Et la FM, c'est fait pour quoi ?
Principactif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principactif, le mix des cultures.
Et nous vous le disions, toujours en direct, en live et en public de l'école démocratique hébraïcienne, à l'occasion de cette journée, portes ouvertes, de cette journée de rencontres, d'échanges et de discussions. C'était une belle invitation qu'ils nous ont proposée. On aura discuté déjà avec la gouvernance, avec quelques étudiants, et nous allons maintenant échanger avec Gaël et Arnaud qui nous rejoint à nouveau sur le plateau, autour de l'équipe encadrante, de l'équipe pédagogique, de comment ça fonctionne. Et puis, un petit peu ce qu'il en est. Alors, ma toute première question était, pour les auditeurs qui ne s'imaginent pas très bien les locaux, enfin si, ils viennent d'entendre la visite qui nous a été proposée par Léon et Elena, bien entendu, mais pour voir un petit peu comment est cette école, c'est quel est l'effectif de l'école, combien y a-t-il d'étudiants dans cette école ? Gaël.
Alors, à l'heure actuelle, on a 15 étudiants de 5 à 12 ans et on peut accueillir jusqu'à 19 étudiants.
Alors, Gaëlle, on te présente comme facilitatrice et pas comme institutrice. Dans une école, on a l'habitude de ces termes, prof, enseignant, instituteur ou institutrice. Toi, tu es facilitatrice. En quoi, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme et en quoi c'est différent d'un enseignant comme dans le milieu plus ordinaire ?
Alors, je suis facilitatrice d'apprentissage. J'accompagne les étudiants dans un modèle qui permet plus l'autodétermination des apprentissages. Les étudiants vont choisir ce qu'ils veulent apprendre en fonction de leur rythme et ce qui est vivant pour eux à l'instant où ils ont envie de le vivre.
Un étudiant qui n'aurait pas le goût de l'apprentissage des mathématiques, par exemple, il pourrait quand même pas faire l'impasse dessus.
Non. Alors, le système que l'on a mis en place aborde des mathématiques au minimum une fois dans la journée. On a des groupes d'accompagnement et ces groupes-là passent par soit des rituels, soit des incontournables, ce qu'on appelle les incontournables. Et donc, ils abordent la lecture, l'écriture et la numération une fois par jour au minimum.
Sur cette notion de facilitateur, j'y suis revenu, mais ça révèle toute une pédagogie qui n'est pas la pédagogie, on va dire, éducation nationale classique. Il y a une autre pédagogie derrière tout ça. Tout à l'heure, on parlait d'une école Montessori qui existait une époque. Je sais que certains enseignants parlent parfois de freiner, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un courant pédagogique? Est-ce qu'il y a des repères, j'ai envie de dire presque théoriques, pédagogiques au sein de cette école? Arnaud, Gaël, je ne sais pas qui veut s'emparer de cette réponse.
Bon, on pourrait dire qu'on s'inscrit dans la suite du mouvement freiné. On est la suite du mouvement freiné. Au début, on était parti, on s'était inspiré de ce modèle américain, l'école Sudbury. Et puis finalement, on a raccordé avec notre histoire française et on s'est mis dans cette ligne-là. Donc chez Freiné, il y avait déjà cette idée qu'il y avait un petit décalage de la part de l'enseignant, c'est-à-dire moins de cours magistraux, beaucoup plus de... C'est la pédagogie de projet, en fait. Donc,
et d'expérimentation, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait cette notion d'expérimentation pour l'apprentissage.
C'est une notion très importante, en fait, c'est de pouvoir tâtonner en expérimentant. C'est ce qui... c'est une dimension très importante. Tâtonner, ça veut dire essayer, se tromper. C'est ce qui essaie de se laisser faire ici. Enfin, on n'essaye pas, ça se fait. On expérimente des choses et c'est essentiel de pouvoir se tromper, réussir, se tromper à nouveau, etc. Faire vivre cette dimension-là, c'est une des dimensions de cette pédagogie.
Alors ça, c'est des références, on va dire, théoriques, en fait, de la pédagogie. On évoquait tout à l'heure le circuit décisionnel, le collectif, en fait, qui est hyper important dans la façon d'aborder l'école ici. Cette notion de collectif, c'est central, j'imagine.
L'aspect décisionnel, c'est ça?
Alors décisionnel, mais de fonctionnement. On voyait tout à l'heure Elena qui accompagnait Kavia sur les mathématiques. J'ai eu l'occasion, quand j'ai fait la visite, de voir d'autres étudiants s'accompagner mutuellement. Il y a une notion collective.
Oui, on pourrait mettre, c'était très cher dans le mouvement freiné aussi, c'est l'aspect coopératif, quoi. Je dirais, on ne travaille pas forcément à mettre en place la coopération, elle découle de ce petit décalage de l'enseignement. C'est-à-dire, pourquoi on ne s'appelle pas enseignant, c'est que dans la position d'enseignant, il y a une posture sachante d'emblée qui se positionne en disant, j'ai des choses à transmettre, ce sont ces choses que j'ai à vous transmettre, qu'il est bon d'apprendre. C'est ce décalage-là que nous opérons. Et donc, on a enlevé ce terme d'enseignant parce que c'est pas ce type de relation que nous voulons avec nos collaborateurs étudiants. C'est plus on est ensemble. Et alors, on a récupéré ce qui avait été élaboré par le mouvement freiné, toutes les fiches autocorrectives, parce que ça leur permet de travailler en autonomie. Ce qui nous permet, nous, du coup, de pas faire de cours magistraux et que chacun puisse effectivement travailler à son rythme. Et avec la coopération découle de ce décalage-là, puisque du coup ils peuvent se faire aider par nous autant que par leur père.
Alors moi j'aimerais ajouter, en fait, à cette pédagogie, on parle beaucoup de freiner, mais on est plus encore, on a fait un pas supplémentaire, c'est qu'on est plus sur la pédagogie du troisième type, où dans la pédagogie freinée, les projets sont impulsés par l'adulte, l'instituteur, alors que dans la pédagogie du troisième type, c'est vraiment les étudiants eux-mêmes qui sont à l'origine de leur projet. Il n'y a quasiment pas de proposition d'adultes dans les projets et dans les activités d'école.
Par exemple, chez Freiné, il y avait souvent, ce qu'on trouvait dans les classes, c'était ça a coopéré autour de la réalisation du journal. Ce qui était très intéressant, mais l'adulte avait décidé de ce projet-là, ils articulaient les apprentissages autour de la... Donc nous, on a encore enlevé ça. Et hormis ces histoires de rituels, d'incontournables... qui est une réponse aux attentes de la civilisation, de l'éducation nationale et même...
Ce qu'on appelait le socle des apprentissages, c'est ça ?
Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Donc une fois ça rassuré sur cet aspect-là, il reste beaucoup d'espace-temps dans la journée pour que les enfants puissent développer quelque chose qui vient vraiment d'eux, quoi. Ou accompagner quelqu'un, donc il parlait des marionnettes tout à l'heure, parce qu'en ce moment, ça germe cet attrait autour de la... Ils aiment beaucoup écrire des histoires, inventer, les communiquer aux autres, et tout d'un coup les marionnettes apparaissent comme étant quelque chose, un média super simple d'utilisation, voilà.
Mais oui, les marionnettes en ce moment ont pris beaucoup de place et ont repris un peu de vie. C'est l'importance de la pédagogie du troisième type, c'est l'environnement qui doit être riche en fait pour amener vers les activités et vers l'envie de faire quelque chose. L'atelier marionnette était dans un autre espace. Avec Arnaud, on s'est questionné donc comment on pouvait le refaire vivre. On l'a redéplacé, on a rajouté juste deux, trois petits éléments et ça a pris vraiment vie encore plus comme on avait envie que ça se passe.
Donc nous, notre fonction de facilitateur, un des aspects en fait, c'est tout le temps de réfléchir sur la mise en place des ateliers permanents ici. Donc comme il n'y a pas de salle de classe comme on a l'habitude d'en voir, comment l'espace est structuré sous la forme d'ateliers permanents, donc l'atelier bricolage, peinture, argile, découpe, informatique, etc. Donc nous, par exemple, l'atelier bricolage, il n'a pas fonctionné pendant des années, pendant assez longtemps, et puis tout d'un coup on s'est dit ben bon non, on va le réinstaller autrement, on l'a mis à hauteur des enfants, on a mis des vrais outils, on les a mis au mur, etc. Et tout d'un coup l'atelier bricolage a fonctionné et aujourd'hui il est utilisé. On n'imaginerait plus qu'il n'y ait pas d'atelier bricolage ici et ça fonctionne très bien, quoi. Voilà. Donc,
mais c'est ce que soulignait Gaël, en fait c'est dans la disposition, dans la proposition, dans l'environnement, finalement il y a cet attrait d'aller expérimenter, d'aller tester quelque chose et d'éventuellement rater, sans qu'il y ait de pression.
Voilà, très important, il faut accepter vraiment qu'il y a des choses qui soient premièrement rudimentaires. Et puis ça peut rester rudimentaire très longtemps. Parce que tant que c'est à cet état-là, ça veut dire que ça doit être dans cet état-là pour celui qui est en train de le faire. Et à un moment donné, l'exigence arrive, quoi. Donc il faut de la confiance. Parce que, non, mais ça va venir en fait, l'exigence ou des aspects plus attractifs à regarder de l'extérieur.
Sur les élèves, on voit bien, ça fonctionne en collectif, ça fonctionne en école, en fait, au sens large. Une question toute bête qui est, mais quid de ce qu'on pourrait appeler les niveaux scolaires, en fait, quand on est dans cette pédagogie-là? On entend bien la question de socle, mais on a l'habitude, quand il y a des élèves, de dire, ah, bah, il a un niveau CE2, CM1, vous voyez, enfin, ces références, on va dire, de l'école publique. Comment ça fonctionne chez vous sur ces références de niveau d'apprentissage, de là où ils en sont? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des équivalences ou des socles qui font lien avec des références qu'on maîtriserait peut-être un peu plus dans le milieu ordinaire?
Bah, on va quand même se référer à l'âge plus ou moins, donc à tel âge vous êtes plus ou moins dans tel ou tel niveau de classe. Après on voit par rapport à ce qu'ils ont abordé comme apprentissage, il va y avoir des étudiants qui vont avoir un niveau CE1 en français et un niveau 6e en mathématiques parce qu'ils auraient travaillé un peu plus les mathématiques. Nous on se réfère vraiment plus au socle commun d'apprentissage et de connaissances, donc ça permet quand même de pouvoir pour eux se sentir rejoint avec les étudiants de l'extérieur, les enfants dans d'autres écoles à l'extérieur, en se disant bon bah moi je suis plutôt en CE1, en CE2, en 6e, mais sinon ici en termes d'apprentissage non, on calcule pas, on ne parle pas en fait de niveau scolaire clairement.
Mais pourquoi du coup? Parce que si on met la pression à quelqu'un sur le fait qu'il devrait savoir ceci à ce moment-là, c'est quand même extrêmement inhibant, en fait. On dit à quelqu'un, c'était pas normal, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut, etc. Alors, ça va pas du tout, en fait, parce que créer d'inhibition chez quelqu'un, ça va l'empêcher, au contraire, de se mettre naturellement sur quelque chose vers lequel il pourrait, à un autre moment, en fait, prendre beaucoup de plaisir. Et du coup, que ça se passe vraiment très, très rapidement. On voit, par exemple, sur la question de l'orthographe, ici, que c'est pas la question pendant des fois très longtemps. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est la relation qu'ils vont trouver à l'écriture, le plaisir d'écrire, le sens que ça a d'écrire, de communiquer quelque chose à quelqu'un, d'inventer, ou même juste pour moi-même. Enfin bon, il y a tout un tas de fonctions au monde de l'écriture. L'orthographe, une fois qu'il décide de s'y mettre, ça peut aller relativement vite, en fait. Donc il faut être en compte. C'est pour ça que c'est important d'avoir des années d'expérience, ce qu'on commence tout doucement.